La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis à nouveau aujourd'hui avec le docteur Joël Dehay, qui est spécialiste de la rhumatologie des musiciens. La semaine dernière, il nous a expliqué les problèmes qu'il pouvait y avoir justement à cause des postures, des mauvaises postures des musiciens, et qu'il a donné pendant de nombreuses années des consultations justement par rapport à ces musiciens qui avaient des soucis. Et on va tout de suite entrer dans le sujet. Je vais lui demander, Joël, comment ça se passe en fait une consultation de musicien? Comment vous étudiez? Comment vous faites des diagnostics? Qu'est-ce qui est spécial aux musiciens par rapport à n'importe qui, par exemple? Donc, comment ça se passe quand vous observez un musicien et quand vous essayez de traiter un musicien?
Oui, l'approche rhumatologique traditionnelle reste valable, c'est-à-dire qu'elle est fondamentalement clinique. Il faut écouter la personne, raconter ce qu'elle éprouve, lui poser des questions bien évidemment assez précises pour pouvoir définir clairement quel est le type de douleur, où elle se situe, quelles sont les circonstances qui la favorisent, n'est-ce pas ? Et on commence par cela, et ensuite on examine attentivement, on regarde, ça s'appelle l'inspection, ensuite on palpe, on appuie pour voir s'il y a des points douloureux, et après on mobilise dans l'articulation, et pour arriver à savoir effectivement quel est le diagnostic, très souvent avec l'examen clinique physique traditionnel, on arrive à savoir si c'est une tendinite, ou non. Et les musiciens, tout le monde pense qu'ils font des tendinites, et en réalité, ce n'est pas si fréquent que ça. On y pense toujours chaque fois que la douleur est assez localisée et au voisinage d'une articulation. Mais dans la grande majorité des cas, les musiciens ont des douleurs beaucoup plus diffuses. Ils ont mal dans l'avant-bras, dans le bras, dans l'épaule. Et ce qu'ils appellent l'épaule, ça va jusqu'au dos. Enfin, c'est souvent assez étendu. Et puis, on voit bien qu'ils nous le disent, que c'est quand ils font l'instrument qu'ils ont ça, mais parfois dans le syndrome qu'on appelle de surmenage musculaire, ils ont tellement tiré sur la ficelle que les douleurs persistent après le jeu instrumental, et parfois même elles arrivent à un niveau tel qu'ils ne peuvent plus jouer de leur instrument. Dès qu'ils le prennent, ils ont horriblement mal. Voilà ce qui peut se passer.
Juste pour rebondir, tu disais que vous faisiez un diagnostic clinique, mais oui. Vous étudiez aussi le musicien en posture de jouer de la musique.
Voilà. Bon, la première étape, c'est l'examen rhumatologique traditionnel. Et ensuite, il faut faire un examen en situation de jeu. C'est-à-dire que le musicien vient à la consultation avec son instrument. Alors, il y a des instruments qui ne sont pas faciles à transporter. Donc, il faut avoir un piano dans sa salle de consultation. Il faut avoir une contrebasse aussi, qui est un instrument très lourd. Et comme je consultais à Paris, vous imaginez ce que c'est dans le métro d'avoir une contrebasse. Déjà que quand on est sans bagage, on n'est pas toujours très à l'aise. Voilà, donc il faut avoir un minimum de matériel pour faire ces consultations. Et c'est précisément dans cet examen à l'instrument que l'on peut faire l'analyse de l'ergonomie à l'instrument, de la façon que le musicien a d'utiliser son instrument. Et c'est là qu'on voit, par exemple, qu'il a un dos rond, qu'il a la tête complètement en avant, qu'il est en déséquilibre manifeste. Et on parlait tout à l'heure de Glenn Gould. Tous ceux qui ont vu les vidéos de Glenn Gould, il a disparu en 1982.
Donc... On va peut-être en reparler un peu de Glenn Gould, parce que pour les gens qui... Bon, je pense que tout le monde connaît Glenn Gould, mais on ne sait jamais. Donc, tu peux peut-être rappeler...
C'était un pianiste
qui était Glenn Gould.
Qui est né en 1932 au Canada, à Toronto, et qui est mort en 1982, il avait tout juste 50 ans, donc il a eu une carrière courte, mais il a eu une carrière assez extraordinaire. C'était un enfant prodige, d'une part au Canada, puis il est allé aux États-Unis quand il est devenu célèbre au Canada. Il avait donc 24-25 ans, et là, il a fait un enregistrement des variations Goldberg, une œuvre de Bach que tout le monde trouvait un peu ennuyeuse, n'est-ce pas ? Comme si c'était des exercices pour se délier, s'entraîner, développer ses capacités de régularité, etc. alors qu'en fait, c'est une œuvre artistique qui est un des sommets de la musique pour clavecin. Plus personne ne le discute maintenant. Et c'est lui qui a révélé cette œuvre au public en définitive. Il a fait un enregistrement qui s'est répandu dans le monde entier tout de suite. Il faut dire aussi que les enregistrements avaient progressé, les techniques d'enregistrement, par rapport à ce que c'était auparavant.
Excuse-moi, il l'avait fait au piano, pas au clavecin.
Voilà, oui, il était ça, pianiste. Oui. Mais il faut dire aussi que le clavecin, personne n'en jouait dans les années 30 ou 40. Il y a eu une femme assez extraordinaire qui s'appelait Wanda Landowska qui a remis cet instrument à l'honneur. Je crois qu'elle était née en 1875, donc c'était dans la première moitié du 20e siècle qu'elle a utilisé l'instrument. Mais encore une fois, elle a fait faire un instrument moderne qui était beaucoup plus lourd que les clavecins d'autrefois. Maintenant, on a des spécialistes de la musique baroque qui utilisent des reproductions, des copies de clavecins anciens qui sont absolument voisins de ce qu'on faisait au 18e siècle ou au 17e siècle et qui ont des qualités acoustiques merveilleuses. Mais à l'époque, les clavecins qu'on faisait n'étaient pas extraordinaires. Et donc, ce n'est pas étonnant que Glenn Gould n'ait pas fait de clavecin. Mais en tout cas, il faisait du piano et il voulait reproduire un jeu qui se rapprochait de celui des clavecins, ce qu'il avait dans sa tête. Voilà. Alors que ce n'est pas fait pour Rodwed. Mais on joue très bien Bach sur un piano.
Je dois justement, dire.
C'était pas pouvoir dénaturer le piano, il faut jouer le piano.
C'est magnifique ce jeu, cette interprétation des variations de Goldberg, oui.
Alors, effectivement, il est devenu célèbre là, en l'espace de quelques semaines, en même temps que ça s'est répandu, jusqu'en URSS. Il est allé jouer, donc après les États-Unis, il est allé en URSS. Il a eu un succès considérable à Moscou. Et puis ensuite, il a fait des concerts dans le monde. En 59, il a fait un concert par semaine pendant toute l'année, ce qui est quand même un effort colossal aussi, et assez fatigant pour ses muscles, ses articulations, et puis très stressant aussi. Il faut savoir que quand même, que la musique, c'est une activité où la personne est exposée au regard, à l'oreille et au jugement d'autrui. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de stress, et le stress, forcément, vous paralyse quelquefois dans vos mouvements. Et Glenn Gould était quand même quelqu'un qui était assez phobique, c'est-à-dire qu'il avait des craintes. C'est très difficile de faire de la musique à haut niveau. Et puis, quand on est critiqué derrière, si on est un peu sensible, c'est dur, quoi. Et on le comprend. Et à 32 ans, il a décidé qu'il arrêterait de faire des concerts publics et il s'est retiré dans des studios où il a pu, grâce aussi au progrès des nouvelles technologies de communication, faire des enregistrements de bien meilleure qualité. Et puis quand une partie, il estimait qu'elle n'était pas assez réussie, eh bien il reprenait ce passage pour arriver finalement à faire un montage, comme en fait avec les films. Il a fait des montages musicaux avec des disques de grande qualité, mais avec une façon d'interpréter tout à fait personnelle. Et comme son objectif, c'était de se rapprocher du clavecin, il a développé une posture de jeu telle qu'il mettait ses mains avec des poignets très fléchis, les doigts complètement.
Oui, c'est vrai. Quand on voit les images de sa posture, il était assis très bas, il était penché un peu sur le clavier, il avait les mains très hautes et à plat, ce qui n'est pas du tout la méthode habituelle de jouer du piano.
Normalement, il faut être effectivement plus haut et dominer le clavier de sa hauteur, avoir un socle très solide. Et puis, lui, au contraire, il était très bas, de façon à pouvoir avoir les poignets fléchis. Il avait les coudes bas.
Mais ça pouvait lui donner des problèmes de santé, justement.
Et du coup, il ne pouvait pas porter le poids de ses bras. C'était impossible dans cette position. C'est pour ça qu'il a tant de douleurs dans les épaules. Et puis aussi, il a eu des problèmes avec même les mains, il n'arrivait plus à bien contrôler ses doigts.
Mais c'est pas pour ça qu'il arrêtait, j'ai compris. Tout à fait. Enfin, peut-être un peu, mais aussi à cause de cette phobie du
public. Il a fait des arrêts. Par exemple, il avait des rendez-vous pour des enregistrements, des contrats. Il avait des films aussi qu'il a voulu, des films musicaux avec Bruno Mont-Saint-Jean, notre spécialiste du film musical français. Et il est obligé de repousser ses rendez-vous tellement il avait mal, il n'était pas en état de jouer. Voilà. Mais encore une fois, s'il avait ces douleurs, c'est parce qu'il avait cette idée de jouer d'une certaine façon pour avoir un son extrêmement détaché, ce qu'on appelle le staccato. Et avec la technique qu'il avait découverte, il avait un staccato très rapide, très articulé, qui correspondait à l'idée qu'il avait de la façon dont il fallait jouer Bach. Voilà. Alors que maintenant, bien sûr, ça fait, disons, il est mort en 82, et on a beaucoup évolué dans la façon de jouer Bach. Et beaucoup de spécialistes actuellement estiment que Gould, ça appartient à l'histoire de la musique.
Et tu nous as montré deux images, si je peux dire comme ça, Daniel Barenboim au piano et Glenn Gould au piano, et ce n'est pas du tout la même posture.
Oui, Daniel Barenboim est un pianiste qui, qui joue effectivement du piano de la façon traditionnelle, avec un tronc très droit, des courbures vertébrales maintenues, des épaules larges, et qui a une grâce dans son jeu et une capacité de faire des nuances et d'obtenir des couleurs absolument subtiles, admirables véritablement. Le jeu de Gould était assez tellement stéréotypé et caractéristique qu'on le reconnaissait tout de suite. Hein, alors qu'effectivement, un pianiste, normalement, a une palette de techniques qui lui permet de changer la couleur des notes, de faire des choses assez subtiles qu'on ne peut pas faire avec cette technique qu'il avait, qui était assez mécanique en définitive. Et c'est aussi pour ça que Gould ne jouait pas le grand répertoire romantique avec sa technique. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il faut avoir des fléchisseurs puissants, il faut vraiment entrer dans le clavier et sa technique ne lui permet pas de le faire. Alors, mais l'important, c'est d'avoir effectivement une gestuelle, une posture adaptée à ce que l'on fait. Il y a des règles générales qui valent pour toutes les pièces que l'on joue, n'est-ce pas ? Mais l'engagement technique n'est pas le même en fonction. La musique contemporaine, par exemple, est d'une difficulté considérable,
oui.
Avec des déplacements très importants.
Mais justement, je pense que les musiciens, quasiment tous les musiciens, doivent avoir des problèmes de douleur et tout ça. Et pourtant, tu vois des pianistes, enfin, on connaît des grands pianistes qui ont été pianistes jusqu'à presque 90 ans. Donc, ça veut dire que ces musiciens sont capables de passer par-dessus, de dominer leur douleur.
Oui, mais par exemple, Vladimir Horowitz.
Oui, je pensais à le dire.
Il trafiquait, entre guillemets, ses instruments. De telle sorte qu'il ait beaucoup moins d'efforts à fournir. Et même Glenn Gould, parce qu'il avait ses problèmes de douleur, et il a essayé d'obtenir de la maison Steinway, parce qu'il jouait sur des pianos Steinway, que l'on réduise la résistance à l'enfoncement des touches. Et c'est comme ça qu'il a eu finalement ce conflit avec la maison Steinway.
Et je pense que tous les jeunes musiciens devraient faire attention à prendre vraiment des bonnes postures pour pouvoir ne pas avoir trop mal et pour pouvoir jouer longtemps.
Jouer un opéra, c'est 3-4 heures dans une fosse d'orchestre. Voilà. Il faut pouvoir le tenir, effectivement. Donc, avoir effectivement une bonne condition physique, une bonne hygiène de vie aussi par ailleurs, hein, ça c'est très vrai.
En tout cas, merci beaucoup, Joël, pour toutes ces informations. Je crois qu'ils intéresseront beaucoup les auditeurs, qu'ils soient musiciens ou pas.
Merci Sylvie, au revoir.